Bonjour à tous. Comme le dit Eric, effectivement, depuis le début de l'année, depuis le mois de septembre, j'ai passé un petit moment, quelques moments avec les ados pour leur apporter la parole. Et le programme de l'année, c'était le plan de salut de l'humanité, de Dieu pour nous. Et donc, je vais vous en faire profiter. Vous avez reçu, ou c'est disponible en tout cas à l'accueil, hein, pour ceux qui n'ont pas encore pris, le bulletin du mois. Et en fait, ma prédication, ça pourrait être, ben voilà, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Bon, je vais quand même prendre un peu plus de temps, sinon vous seriez venus, vous seriez frustrés. Et c'est vrai, si vous vous souvenez, la semaine dernière, Philippe a prêché sur le péché, à partir d'un texte de la première épître de Jean. Alors j'aimerais apporter un autre regard à cette problématique du péché. Alors, je vais faire un signe à la sono pour qu'il passe la vue d'après. Voici sur ce cliché, on voit par toutes les étapes. Le parcours que nous traversons, hein, ça commence, il est vrai, par la perfection. Dieu nous a créés parfaits, mais très vite, le péché nous a submergés. Nous avons été condamnés à mort. Mais par le pardon de Dieu, nous avons pu, à travers notre culte, recevoir cette pureté rituelle par la nouvelle naissance. Recevoir cette vie que Jésus nous donne. Mais nous devons aussi cheminer par la sanctification sur le chemin de notre développement spirituel pour atteindre finalement l'incorruptibilité qui viendra lors du deuxième retour de notre Seigneur. Toutes ces étapes sont décrites dans la Bible. Je ne vais pas vous faire l'apologie de la Bible, nous la connaissons bien, nous sommes une église protestante, donc nous avons cette Bible tous les dimanches sous le bras, et j'espère à la maison aussi, à côté de notre lit, pour la lire et la méditer tous les jours. Mais dans la Bible, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par les Évangiles, par le Nouveau Testament, nous voyons donc tout ce cheminement. Et c'est vrai que Dieu m'a créé parfait, comme je le disais à l'instant, corps, âme, esprit. Dieu lui-même est Trinité. Bon, c'est un mystère que je ne développerai pas ce matin. Et Dieu m'a créé parfait, mais par le péché, aussi bien mon esprit que mon âme, que mon corps ont été affectés, corrompus par le péché. Et c'est pourquoi j'ai besoin, nous avons tous besoin de passer par cette nouvelle naissance, une naissance d'eau et d'esprit. Nous avons besoin d'être changés. Nous avons besoin, par la sanctification, de progresser jour après jour et d'atteindre, à travers la promesse que Jésus nous fait, il va nous donner la vie éternelle, donc d'atteindre le stade d'incorruptibilité. Voici, Dieu a tout créé parfait. Dieu a créé l'homme, l'humain, Adam et Ève. Il les a créés parfaits et il l'affirme. Genèse chapitre 1, verset 31, c'était très bon. Tout était bon. Dieu a tout créé parfait. Mais Adam et Ève ont péché en écoutant le serpent. Le serpent, qui a d'autres noms aussi, l'adversaire, le diable, Satan. Et Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dû chasser Adam du jardin de peur qu'il ne mange également du fruit de l'arbre de la vie et qu'il ne vive éternellement. Et en chassant Adam et Ève du jardin, Dieu a dû tuer un animal. On voit ici Adam et Ève. C'est plutôt Tarzan et Jeanne, mais bon, peu importe. Vous voyez qu'ils sont recouverts de peau de bête. Et c'est la conséquence du péché. Dieu a dû tuer un animal pour prendre sa peau. Et le sang a dû couler. C'est la préfiguration de tout ce qu'on peut lire par la suite dans la Bible. Et en fait, cette peau, c'est cette couverture, cet habit, permet à Dieu de voir Adam et Ève recouverts, avec une faute recouverte. Donc c'est une façon de dire, Dieu ne va pas vous faire mourir tout de suite, il cache pendant un certain temps votre faute. C'est vrai, Dieu avait dit, si tu manges du fruit défendu, tu mourras. C'est du futur, c'est pas du conditionnel. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que Adam et Ève meurent sur le champ, mais Dieu est patient. Ils ont vécu quelques années, mais finalement, ils sont morts. Alors, cet animal qui a été tué, c'est une image de la loi de Moïse, comme on le voit sur cette image. On voit le sang de l'agneau pascal, c'est au moment de l'Exode. Le sang a dû être répandu sur les linteaux de la porte pour protéger la famille et éviter que l'ange de la mort ne tue l'enfant premier-né. Et dans toutes les maisons où il n'y avait pas de sang, l'enfant, le premier-né, était mis à mort par l'ange de Dieu. C'est ainsi que dans toutes les familles égyptiennes, il y a eu deuil ce jour-là, alors que les familles des Hébreux ont été protégées par ce sang. On le voit dans cette prochaine image, le couvercle de l'Arche de l'Alliance, qui s'appelle le propitiatoire. C'est un mot un peu barbare, mais derrière se cache le mot propice, ça veut dire favorable. Donc Dieu, qui est très saint, et qu'on ne peut pas approcher parce que nous sommes impurs, finalement, à travers des rites religieux, il devient propice. Nous pouvons nous approcher de lui en respectant, bien sûr, certaines règles. Et donc, cette image du couvercle du propitiatoire dans l'Arche de l'Alliance. Je ne vais pas développer davantage. Il y a le rideau du temple, il y a d'autres images qui sont sur ce même schéma. C'est vrai, ne confondons pas. Le sang de l'agneau, dans la loi de Moïse, ne rend pas l'humain pur, sans tache. Mais il permet tout juste à Dieu de nous voir à travers ce rituel, de nous voir rituellement purs. C'est une subtilité importante. Et c'est vrai, dans l'épître de l'apôtre Jean, dont je parlais tout à l'heure et sur laquelle Philippe a prêché la semaine dernière, c'est très largement développé. Et quand j'ai commencé à lire la Bible Summer, quand elle est sortie dans les années 2000, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien expliqué dans les notes et les commentaires de cette Bible. Et je vous encourage, si vous voulez approfondir sur ce sujet, de lire cette Bible et surtout les notes et les commentaires. Et donc, le péché de l'homme n'a pas disparu, mais il est couvert, ce qui permet à l'homme de continuer à vivre et de ne pas tomber directement sous la malédiction. Et toute la loi de Moïse, c'est l'image du sacrifice ultime de Jésus-Christ sur la croix, mort à notre place. Son sang a coulé, et c'est aujourd'hui son sang qui nous couvre et à travers lequel Dieu peut nous voir purs. Pourtant, nous nous connaissons, comme le dit Jean. Qui peut dire qu'il n'a pas péché ? En tous les cas, pas moi. Et en fait, croire en Jésus, c'est accepter d'être revêtu de sa justice. C'est donc éviter le jugement. L'apôtre Jean est très clair sur le jugement. Et je pense qu'il y a un verset qui le montre. Jean 3, 18. On connaît tous par cœur Jean 3, 16. Mais Jean 3, 18 est très intéressant. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et donc, éviter le jugement, c'est tout simplement, par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, entrer dans son royaume, dans la Jérusalem céleste, dans la cité sainte. Voilà une belle image. Merci à Internet, on trouve toutes sortes d'images. Alors que, au contraire, ne pas croire, c'est être jugé coupable, c'est rester sous l'emprise du péché qui mène à la mort. Oui, nous le savons, nous les chrétiens, que nous soyons vivants ou morts, mais au jour de la trompette, lorsque Jésus-Christ reviendra pour son deuxième retour, nous ne serons pas jugés, mais nous serons tous appelés à le rejoindre. Et nous le lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 52, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. C'est donc l'étape que nous visons. Nous sommes ici sur cette terre encore sous l'emprise du péché, de la maladie, de la mort. Mais voyez cette espérance. Certains utilisent facilement l'horoscope du journal, ils passent des heures et des heures à se dire « mais qu'est-ce qui va m'arriver demain ?» Mais écoutez, prenez la Bible. C'est merveilleux de voir ces promesses que Dieu nous donne. Et je peux vous dire que quand on prend le temps de la lire, il nous donne même beaucoup plus de détails sur la façon de prendre les meilleures décisions pour notre vie. Ce premier aperçu du plan de salut de Dieu, je vais le développer avec un autre regard. Je vais utiliser des nombres. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Dieu a créé l'humain en trois parties, comme corps, âme, esprit, parfait. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu qui symbolise la perfection. Le chiffre 3 symbolise Dieu d'une part, c'est vrai, puisque Dieu est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais l'humain a été fait à l'image de Dieu. Nous, donc nous sommes aussi, nous, en trois parties, corps, âme, esprit. Et c'est ce chiffre, donc 777, qu'on apprend à utiliser de plus en plus. Il y a pas mal de groupes de musique qui utilisent ce chiffre pour louer Dieu. Notre esprit, alors pour expliquer un petit peu la différence entre le corps, l'âme et l'esprit, pour que ce soit clair, je pense que c'est sans doute clair pour la plupart d'entre nous, mais encore faut-il le rappeler. Notre esprit, c'est la partie de notre humanité qui entre en communion avec Dieu. Et à la création, notre esprit est parfait. Et tous les soirs, dans le jardin d'Éden, Dieu se promène dans le jardin, il vient à la rencontre de l'homme, de la femme, aucun problème de connexion, puisque c'est parfait. Notre âme, c'est plus ce qui porte nos sentiments, notre intelligence, nos raisonnements. À la création, elle est parfaite. Elle a reçu les commandements de Dieu et elle y obéit. Dieu a dit ne pas manger du fruit de l'arbre défendu, et effectivement, Adam et Ève ont respecté ce commandement. Jusqu'au jour où le tentateur, le serpent, l'animal le plus rusé, s'est approché de Adam et Ève et a réussi à les séduire, à séduire leur âme par un raisonnement alambiqué. Dieu a-t-il vraiment dit ? Et vous connaissez la suite de l'histoire. Adam et Ève sont tombés dans le panneau. Ils ont goûté du fruit défendu. Et on voit dans ce schéma illustré par des nombres que leur âme a été dégradée d'un niveau. Elle est devenue imparfaite. C'est passé du 7 au 6. 6, c'est le chiffre caractéristique de l'humain. L'humain, fier, qui sait se débrouiller tout seul, sans Dieu. On connaît en France la philosophie des Lumières dans les siècles passés, la science qui nous permet de résoudre tous les problèmes, presque même d'aller jusqu'à l'éternité. Bon, On a un peu de mal avec le virus en ce moment, mais néanmoins, on le voit aussi avec les lois qui sont en train d'être passées dans notre pays, sur le... comment on appelle ces lois déjà ? Je l'ai écrit quelque part, je ne me souviens plus. Enfin bref, les lois que l'État veut imposer aux églises pour tout maîtriser. On va lire le verset suivant sur le... Voilà, donc au moment du soir, on voit ce texte dans la Genèse, au chapitre 3, verset 8. Donc, Adam et Ève entendirent l'Éternel Dieu parcourir le jardin, et l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Vous notez bien que lorsque l'on tombe dans le péché, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, ce n'est pas Dieu qui devient lointain comme on le laisse croire dans certaines mythologies. Non, c'est plutôt nous qui avons honte, tellement honte d'avoir désobéi à Dieu, que nous avons peur et nous nous cachons. En tout cas, c'était le réflexe de Adam et Ève et je pense qu'aujourd'hui, nous imitons, nous suivons cette même démarche. Lorsque nous sommes dans le péché, nous préférons nous retirer dans les ténèbres que de rester dans la lumière. Néanmoins, Dieu, lui, ne s'est pas éloigné. Il reste à côté de nous. Même si nous sommes coupables, il reste à côté de nous. Et c'est nous qui refusons de saisir sa main alors qu'il nous l'attend pour nous sortir de nos difficultés. Et c'est ainsi que l'esprit de l'homme, de Adam, est devenu corrompu. Il est passé du niveau 7 au niveau 6. Et voilà que la promesse que Dieu avait donnée, si tu désobéis, si tu pèches, tu mourras. Et la mort annoncée va arriver. Ce n'était pas une mort subite, comme je le disais tout à l'heure, Dieu est patient, mais le corps de Adam est également lui aussi devenu corruptible. Pardon. Il est également passé de 7 à 6. Vous voyez que l'humain qui était parfait, corps, âme, esprit, 7, 7, 7, il passe dans la corruption totale, 6, 6, 6. Bon, c'est un chiffre qu'on a déjà vu quelque part dans l'Apocalypse. On dit que c'est le chiffre de la bête. Je ne vais pas non plus faire beaucoup de commentaires sur ce texte hein, qui a déjà fait l'objet de beaucoup de commentaires. Mais en fait, c'est 666, c'est le chiffre de l'homme dans toute son humanité qui veut se débrouiller sans Dieu. Et pourtant, avec le corps, l'âme et l'esprit de corrompu, comment faire ? Quel espoir pour s'en sortir ? Et en définitive, dans cette situation, on peut comprendre l'humain qui dit « Après la mort, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? J'ai plus mon esprit capable de communiquer avec Dieu. » Donc, à quoi bon ? Et c'est aussi pour cela que certains humains pensent pouvoir commander la vie de l'Église à travers ces textes de loi dont je faisais allusion tout à l'heure. Dans d'autres pays, c'est encore plus grave. On le voit, hein, c'est souvent notre frère André qui nous parle de portes ouvertes et des persécutions dans les pays, que ce soit en Asie, en Afrique. On voit ces témoignages de personnes à qui on brûle la maison, on tue, on leur fait perdre leur travail et on leur dit, bah écoutez, c'est simple, hein, vous reniez Jésus-Christ et on vous redonne tout. Mais ces personnes, malgré la difficulté, préfèrent encore vivre dans la persécution plutôt que de renier Jésus-Christ. C'est vrai qu'en France, on a aussi eu des persécutions hein, au 17e, 16e, 17e, 18e siècle, sans remonter plus loin dans le temps. Les fameuses guerres de religion, ces persécutions pourraient revenir, à nous de nous y préparer. C'est vrai que si nous sommes dans cette situation d'hommes corrompus, tant par notre corps, notre âme que notre esprit, ben quel espoir nous reste-t-il ? Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus-Christ est venu, envoyé par Dieu, pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Et si nous croyons en lui, si nous acceptons de naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, voilà, notre esprit reprend le niveau 7. Voilà. Mais il y a encore du chemin, hein, il y a encore le corps et l'âme qui nous font souffrir, mais au moins notre esprit reprend vie. Nous pouvons de nouveau renouer ce contact avec notre Dieu. Nous pouvons prier. Et à travers le sang de Jésus qui nous couvre, Dieu nous voit comme si nous étions parfaits, 777. Et nous sommes encouragés à travers les écrits de la parole de Dieu, les évangiles, le livre des actes, les épîtres, à avancer dans la sanctification. Il nous arrive bien sûr de commettre des péchés. Je le disais tout à l'heure, même moi je ne peux pas vous dire en face sans rougir que je ne commets pas de péché, ce n'est pas possible. Mais c'est la subtilité, la nuance de dire « je ne vis pas dans le péché ». Ça veut dire « je me détourne du péché », même si j'en commets, mais je n'ai pas cet état d'esprit de vivre sciemment dans le péché. Voilà, je refais référence à la prédication de Philippe. Elle est sur le site internet, d'ailleurs vous pouvez la réécouter si, comme moi, vous n'avez pas beaucoup de mémoire, ça, c'est toujours bon de se rappeler les choses. Voilà, donc je ne peux pas dire que je n'ai pas de péché. Par contre, par le Saint-Esprit qui vit en moi, je peux arrêter de vivre dans le péché et avancer sur le chemin de la sanctification. C'est un processus qui dure toute la vie. La vie chrétienne, ce n'est pas le baptême et après, le diplôme est là et on y va. Non, le baptême, c'est le début. Après, il y a toutes les étapes de la sanctification qui nous attendent. Donc, frères et sœurs, ne vous découragez pas. C'est une course de fond. L'apôtre Paul l'a souvent dit, c'est une course. Pas une course pour être le premier à gagner, ce n'est pas la question. On gagne tous. Mais c'est une course pour aller jusqu'au bout. Voilà. Et le prix que l'on remporte, c'est la couronne de gloire. Donc, à travers la sanctification, on voit que l'âme passe de nouveau à 7. Et c'est la progression ainsi de notre incorruptibilité. Et finalement, au moment de la trompette, comme je le disais tout à l'heure, après la mort, ou si Jésus-Christ revient de mon vivant, hein, donc nous serons à ce moment-là appelés directement sans passer par la mort. Donc ça, c'est une expérience sans doute incroyable. L'apôtre Paul, d'ailleurs, il y a 2000 ans, pensait en faire partie. Hein. Il disait, nous serons changés. Donc il se voyait déjà partir. Ben, écoutez, hein, si ça arrive aujourd'hui ou demain, soyons prêts. Et en définitive, nous serons dans cette ultime étape, 777, et on peut le voir sur ce schéma numérique, notre corps, lui aussi, donc, sera incorruptible. Alors, quoi faire de tout cela? On pourrait dire, ah, Hervé, il a bien prêché ce matin, il a été clair. Bon, oui, mais qu'est-ce que vous allez en faire dans votre vie? C'est le plan de Dieu pour moi, pour chacun de vous. Et c'est à nous aussi maintenant d'agir en conséquence. Dieu nous appelle, Dieu le Père nous invite au banquet des noces de son Fils. C'est cela, le pas de la foi, c'est de croire que nous avons cet appel pour nous rendre à ce banquet. Et Jésus nous l'a promis, il nous prépare une place. C'est merveilleux. Le Saint-Esprit, lui, nous remplit pour faire de nous des pierres vivantes, pour construire son temple, un temple spirituel. Ce qui nous est dit dans l'épître de Pierre, au chapitre 2. Nous sommes donc créés à l'image de Dieu, parfaits, comme corps, âme, esprit, pour passer du temps avec lui, dans le jardin, le soir. Il y a eu ce péché, mais Dieu a prévu toutes les étapes pour nous restaurer dans notre perfection. Ce n'est pas par notre force, par notre capacité, mais c'est uniquement par sa grâce. Acceptons donc cette nouvelle naissance, cette naissance spirituelle qui nous est donnée par la foi en Jésus-Christ. Et soyons renouvelés dans notre intelligence, dans notre âme, pour recevoir ensuite cette incorruptibilité qu'il nous donne. Soyez bénis en Jésus-Christ.